I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un t-shirt à 4,99€ n'a pas forcément été fait par des enfants.
Ah ouais, alors c'est pas forcément, c'est n'a pas.
Souvent, ce qu'on vous reproche aussi, c'est que les gens disent « Mais comment ça se fait qu'ils arrivent à fabriquer un t-shirt et le vendre à 4€ ?» Parce qu'on vous reproche souvent d'être une mode jetable.
Nous, c'est positionné en disant « Nous, c'est la mode de qualité, à prix accessible et de façon responsable. Il n'y a pas de concession sur l'un ou sur l'autre. »
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape,
chiffon, c'est parti.
Pour cette nouvelle saison de Chiffon, je vous retrouverai aussi certains mardis pour vous proposer des épisodes un peu différents sur les coulisses et les enjeux de la mode, ainsi que les acteurs qui font la mode. Premier thème abordé aujourd'hui, l'éco-responsabilité dans la fast fashion. À l'heure où il y a une réelle prise de conscience du mauvais état de notre planète, l'industrie du textile est la première pointée du doigt. C'est un fait, la consommation de vêtements pollue. Et c'est la fast fashion la première responsable de tous les maux. Production à outrance, incitation à la surconsommation, gaspillage, utilisation de produits chimiques, développement de l'esclavagisme moderne et j'en passe. Or, de plus en plus d'acteurs majeurs de ce secteur sont en pleine réflexion sur la manière de penser la mode. J'ai décidé de mener une petite enquête et d'essayer de comprendre la chose en invitant Julie-Marlène Pellissier, responsable de la communication Sustainability d'H&M France. Julie-Marlène va nous expliquer comment H&M s'est engagée pour une mode durable. Chose que l'on ne sait pas forcément, la marque utilise depuis très longtemps de plus en plus de matériaux issus de sources durables ou recyclées. Autre engagement du groupe H&M, la partie sociale avec une surveillance étroite des ateliers de production. Bonjour Julie Marlène.
Bonjour Valérie.
Alors, quelle est ta fonction exacte au sein de H&M ?
Je suis responsable sustainability et corporate engagement pour H&M France.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ça veut dire que je suis responsable de l'engagement et de la communication d'H&M pour les sujets d'entreprise et de responsabilité sociale et environnementale, auprès de toutes les parties prenantes extérieures, les médias, les associations, les groupes de travail.
Donc toi, tu t'intéresses justement à toute cette partie éco-responsable de H&M. Enfin,
exactement.
Tu t'intéresses, c'est ton métier.
C'est mon métier. C'est mon métier.
Et il y en a un dans chaque pays?
De job comme le mien?
Oui.
Oui, je dirais, il y a en tous les cas au sein du département communication des personnes qui sont spécialisées sur ce sujet pour développer les projets et en faire la pédagogie.
À quand remonte l'engagement éco-responsable de H&M?
Ah, bonne question. Alors, c'est vrai que on peut dire, il n'y a pas une date particulière. Je dirais qu'H&M, c'est un groupe suédois déjà. Donc peut-être quand on place ça comme histoire, dire que dans l'ADN du groupe, aujourd'hui c'est le petit-fils du fondateur qui est encore à la tête du groupe H&M. Et je dirais dès sa construction, dès sa naissance, forcément l'ADN.
En quelle année, tu peux le rappeler?
1947. Et donc ça fait quand même un moment. Et donc, je dirais, depuis le début, il y a quand même cette conscience en Suède, au quotidien, les entreprises et les gens pensent environnement et social. C'est vraiment constant. Après, il y a eu des dates un peu marquantes sur des actions et des moments qui ont concrétisé ces engagements. Mais je dirais, non, ça fait longtemps.
Est-ce qu'il y a eu un élément? Alors, c'est vrai que je faisais une revue de presse. On parle de 2013.
Oui.
Alors, est-ce que ça a un lien avec le drame du Rana Plaza?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées en 2013. C'est vrai que 2013, c'est par exemple la date pour nous à laquelle on a rendu publique la liste de tous nos fournisseurs. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu normal. À l'époque, c'était révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut imaginer.
C'est-à-dire qu'il y avait une vraie traçabilité.
Oui, voilà. C'est-à-dire que c'était une traçabilité qui était rendue publique. C'est-à-dire que c'est un peu comme si aujourd'hui Ferrero donnait la recette de son Nutella. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de voilà, de très secret. C'était vraiment la quelque chose d'assez
pourquoi
important.
Pourquoi c'est aussi secret d'ailleurs?
Parce que c'est
la recette du Nutella. Je comprends.
Mais pourquoi? Bah parce que où est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Avec qui on fait? Quels sont nos partenaires commerciaux? Ça veut dire du coup où est-ce que avec qui on travaille? Ça veut dire que d'autres marques peuvent aussi s'intéresser aux mêmes usines. Voilà. Aujourd'hui, quand on y pense, ça peut paraître moins effrayant. À l'époque, c'était engageant. Donc 2013, ça a été justement une année marquante pour ça, notamment pour cette on va dire ce moment où on a publié, donc on a fait part de cette transparence, mais cette fois-ci vers le public.
Donc c'était suite au Rana Plaza.
Alors c'était pas suite à, il se trouve que effectivement cette année ça a été l'année du drame du Rana Plaza, qui était cette usine, cet immeuble Rana Plaza qui s'est effondré au Bangladesh. Ouais.
Et on a pointé souvent du doigt les abus de la fast fashion.
Ouais.
À ce moment-là.
Ouais. Alors. H&M n'était pas dans cet immeuble. Hein, je
faut
le rappelle.
Faut le préciser.
Ouais, oui, ça, c'est très important. Donc on n'était pas présent dans l'immeuble, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de contrat avec les usines qui étaient dans cet immeuble. Maintenant, quand on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné par le sujet. Ça fait longtemps qu'on travaille avec le Bangladesh. Ça fait depuis 1998, je crois. Donc on a des relations commerciales qui datent, qui sont importantes pour nous depuis longtemps. Nous, on est équipé avec à chaque fois un bureau de production dans chaque pays de production avec lequel on travaille. Donc, on n'est pas propriétaire des usines, mais on va avoir vraiment une équipe dédiée, H&M, locale, qui va vraiment gérer la relation.
Cette équipe, son vie sur place.
Ah oui, c'est
vrai. Et contrôle tout.
Alors, contrôle leur travail, c'est au quotidien. Au Bangladesh, c'est à peu près 600 personnes. Donc, c'est quand même assez colossal. Qui travaille au quotidien sur la gestion de la relation avec les usines. Donc, gestion, ça veut dire contrôle des qualités, contrôle commercial, contrôle environnemental, contrôle social. Et c'est leur quotidien, et c'est tous les jours. C'est assez exceptionnel parce que généralement, on va dire la tradition dans l'industrie, c'est d'avoir un hub, un peu comme on dit, je vais être positionné à Hong Kong et de là, je vais gérer mes relations avec le Cambodge, le Bangladesh, justement l'Inde, etc.
Non, vous êtes sur place.
Voilà, nous, on est sur place au Cambodge, on est sur place au Bangladesh. À chaque fois, il y a un bureau de production dans H&M qui gère les relations avec ça. Et donc, pour en revenir au Bangladesh et à cette année 2013, au Rana Plaza, c'est vrai que malheureusement, ce drame a mis un coup de projecteur sur l'idée de la sécurité et des conditions de travail dans les usines. Et donc, nous, on a été les premiers signataires de ce qui s'appelle l'accord, qui a rassemblé maintenant plus de 190 marques, et qui ont fait que vraiment c'est structuré l'idée d'avoir des règles de sécurité autour des incendies, de l'électricité, donc toutes les normes de sécurité, et comment est-ce que c'était audité et respecté pour voir au fur et à mesure si c'était pas le cas, comment ça s'améliorait, etc. Donc oui, 2013 a été pour nous une année aussi charnière, mais non, on n'était pas au Rana Plaza.
Alors H&M a élaboré des cahiers des charges très stricts, aussi bien sur le plan environnemental et social. Quand est-ce qu'ils ont été créés, ces cahiers des charges?
Alors, je dirais que la stratégie développement durable, donc effectivement, qui a deux volets, environnemental et social, pour dire dans les grandes lignes, est actualisée et date depuis, j'ai pas une année première mais depuis longtemps, il y avait un travail de traçabilité pour connaître justement nos usines, pour connaître nos matières, et de là après, c'est transformer ce travail de sourcing d'informations en un travail de comment est-ce qu'on le publie, hein, on le reporte pour que ça soit du coup compréhensible d'abord pour l'industrie et puis après de plus en plus pour le grand public.
Alors la partie environnementale regroupe le transport, les matières premières.
Alors, il y a effectivement beaucoup de choses dans le sujet environnemental. Nous, on va le regrouper sous un objectif qu'on a, qui est d'être 100% circulaire.
C'est-à-dire.
Alors, je sais pas si vous voyez, moi, je me le représente avec, c'est l'idée d'une ligne, en fait. Aujourd'hui, l'industrie de la mode, elle est construite de telle façon, elle est organisée de façon linéaire, c'est-à-dire, j'extrais des matières premières, j'utilise des matières premières, je fais produire mon produit en utilisant de l'énergie, etc., avec les conséquences que ça a sur la production. Et puis, à la fin, j'obtiens un vêtement que je vends, que les gens utilisent, et s'ils ne les utilisent plus, au bout d'un moment qu'on jette, ça devient un déchet. Donc ça, c'était on va dire, la façon dont l'industrie s'est construite. Vous voyez la ligne comme ça dans sa tête. L'idée de la circularité, c'est comment on tord cette ligne pour en faire un cercle. Mm-hmm. C'est-à-dire que les mêmes étapes, j'ai besoin de mes matières premières, je fais produire, j'utilise mon vêtement, mais sous la forme d'un cercle, qui fait qu'à la fin, j'ai un vêtement qui va être réutilisé.
Oui, parce qu'on parle souvent des invendus de la fast fashion.
Oui, alors, c'est encore un autre sujet.
On va en reparler après.
Ouais.
On revient dans l'élément circulaire.
Dans l'élément circulaire, du coup, nous, notre objectif, c'est d'arriver à cette full circularité, donc cette pleine circularité. Et donc, pour ça, il faut qu'on ait des objectifs clairs, et notamment, justement, sur les matières dans le cadre du sujet environnemental. Nous, d'ici 2030, on a pour objectif d'avoir 100%, c'est-à-dire toutes les matières qu'on utilise, issues de sources durables ou recyclées. Aujourd'hui, pour vous donner le chiffre, c'est 57%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rentre dans un magasin H&M, j'ai 57% des matières que j'utilise qui sont issues de sources durables ou recyclées. On veut avoir 100%.
Alors, par exemple, la veste que je porte aujourd'hui est une de la marque Conscious. Alors, pourquoi ce nom ?
Mais oui. Mais
pas de la marque, pardon, ouais. Comment vous appelez ça ? De la collection ?
Ouais. Conscious. Je vous explique, c'est ça ?
Ouais.
Ok.
Tu peux me tutoyer encore, hein ?
Ah, c'est vrai, j'ai switché. Aïe. Pourtant, c'est vrai. Alors, je t'explique. Conscious, c'est un terme, c'est le terme un peu générique qu'on va utiliser pour dire qu'il y a une attention particulière qui est portée sur le vêtement. Donc, j'ai rappelé l'objectif qu'on a, nous, c'est 100% de matière issue de sources durables et recyclées. On va le trouver concrètement, le client. Quand est-ce qu'il va voir ce mot conscious? Il va le voir sur nos étiquettes en magasin. Il y a des étiquettes vertes. Dès que tu as plus de 50%, la moitié du vêtement, donc de ta veste par exemple, qui est composée de matières sources durables ou recyclées. Et alors, je peux t'expliquer ce qu'on entend par sources durables, parce que c'est un mot qu'on utilise un peu.
On l'utilise un peu à tort et à travers. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, c'est pour qu'on nous explique un petit peu, parce qu'on utilise beaucoup de termes et on les connaît pas tous en fait.
Oui, bien sûr. Non, mais et puis parfois c'est des termes qu'on utilise sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Nous, c'est très strict, c'est très défini par source durable. C'est pas nous qui l'avons décrété. C'est-à-dire que on étudie des fibres, on étudie leur cycle de vie. Et c'est un mot anglais, donc je prends mon accent anglais, c'est le life cycle assessment. Mm-hmm. C'est pour dire qu'effectivement, qu'ils comparent une fibre par rapport à une autre, pour dire effectivement, elle a plus ou moins d'impact sur l'eau, plus ou moins d'impact sur... donc, chaque fibre va avoir son enjeu par rapport à l'eau, par rapport à la consommation d'énergie, par rapport du coup aux produits chimiques qui vont devoir être utilisés pour la transformer. Donc, c'est assez complexe, mais du coup, nous, c'est un cahier des charges très fixe. Et quand on dit source durable, on a une liste définie de matières qui sont donc considérés comme durables. Par exemple, je vais te citer le Tencel, qui est une alternative à la viscose, par exemple, et qui est une fibre naturelle parce qu'elle est issue de la pulpe de bois. Souvent, c'est de l'eucalyptus. L'eucalyptus, le gros avantage, c'est que c'est un bois qui se cultive assez et qui grandit assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il peut se renouveler rapidement une fois qu'on l'a.
Cela n'entraîne pas la déforestation.
Non, et non plus que nous, en plus, on utilise un Tencel qui est issu de forêts certifiées dans leur bonne gestion, c'est-à-dire justement dans le fait que ça soit bien géré de façon durable. Donc le Tencel là-dessus, c'est une fibre qui est considérée comme durable chez nous, donc on la met dans la liste de notre sourcing de matières plus durables dans les objectifs qu'on utilise déjà, hein, puisqu'on est un des premiers utilisateurs de Tencel au monde. Et donc, pourquoi c'est une bonne alternative? C'est une fibre plus durable que la viscose, par exemple. C'est parce que on utilise beaucoup moins d'eau pour la fabrication de la matière. C'est souvent fait en circuit fermé, c'est-à-dire dans la même... On prend pas d'eau, de nouvelle eau pour la faire fabriquer, donc c'est toujours en circuit fermé dans l'usine de fabrication. C'est aussi une matière intéressante parce que on utilise moins de produits chimiques pour la fabriquer. Donc tu vois, sur plein de critères, on est capable de dire bah voilà, c'est une fibre plus durable et on la met dans notre base de matière.
Et vous demandez, ce sont des ingénieurs qui font de telles recherches?
Oui, alors on a des équipes à la fois des équipes internes dans notre laboratoire. On a une cellule laboratoire qui effectivement étudie des nouvelles fibres quand elles sont, quand elles apparaissent un petit peu sur le marché. Et puis il y a aussi des organismes tierces, des entités tierces comme le Textile Exchange par exemple, qui est l'organisme qui publie et qui fait tout un travail sur justement ces banques de matières préférables et pourquoi elles sont préférables. Et c'est pour nous une superbe source d'information. Et elles travaillent avec énormément de marques. Toutes les marques du secteur sont en contact avec le textile.
Oui, parce qu'on entend souvent dire aussi que vous utilisez, par exemple, des tissus avec des produits chimiques qui seraient mauvais pour la santé. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que non, les vêtements qu'on va vendre n'ont aucune
ils sont pas dangereux,
grand impact, en fait. Voilà, sur la santé. Il y a des tests qui sont très sévère, c'est très très réglementé.
Mais je crois qu'il faut le rappeler.
Oui, c'est important, Effectivement, on a vraiment, enfin, de manière générale dans l'industrie, mais particulièrement H&M, à chaque fois on prend le plus petit dénominateur commun, on va dire, en termes de mesures restrictives sur les produits chimiques qui peuvent in fine, on va dire, être présent sur le vêtement. On est très strict, mais il y a deux choses dans l'idée du produit chimique. Il y a effectivement des conditions très strictes pour l'utilisation que va en avoir le client, donc être sûr que le client a bien un produit sécurisé, c'est le cas. Et puis il y a la question du produit chimique pour ceux qui fabriquent le vêtement. Et donc là, on est sur effectivement des accords et aussi des listes très strictes, officielles, publiées sur justement les produits qu'on utilise pour ne pas pour limiter, on va dire, tout ce qui est impact environnemental et impact sur les gens qui travaillent, bien entendu.
Aussi, on va en parler après, la partie sociale. Mais donc j'imagine que vous avez aussi dans ces antennes qui sont près des lieux de fabrication, donc il y a ce contrôle-là sur les matières utilisées.
Oui.
Quels sont les freins que vous rencontrez quand même pour être 100% dans l'éco-responsabilité?
Il y en a beaucoup. Les freins, je dirais que l'enjeu, c'est d'avoir une organisation et une prise de conscience de toutes les marques, parce qu'en fait on travaille énormément ensemble. Effectivement, pour les clients, on va voir que telle marque concurrente est à telle marque, bien sûr. Mais d'un point de vue organisationnel et structurel, on a vraiment besoin de toutes les marques quand on doit justement passer des accords sur les produits chimiques qu'on a évoqués, sur les matières qu'on a évoquées. On a vraiment besoin de tout le monde. Et c'est ça l'enjeu pour nous, c'est que l'industrie, derrière nous, on essaye, en tous les cas avec nous, se mette en état de marche pour qu'on arrive à obtenir des résultats. On a besoin d'être tous mobilisés, petites marques, grandes marques.
D'où l'intérêt du Fashion Pact.
Oui,
alors qui a été présenté en août dernier par François Pinault.
Exactement. Alors le Fashion Pact, ce qui est intéressant, en fait, c'est ça fait longtemps donc qu'on a des engagements, mais l'idée derrière le Fashion Pact, c'est d'arriver à avoir un engagement justement de coalition. Donc c'est groupes, je crois que tu as plus de 32 groupes, ça fait plus de 150 marques qui se sont engagées justement à avoir trois thématiques, donc le climat, la biodiversité et la protection des océans. Et sur chacune de ces thématiques, des engagements chiffrés, clairs. On peut faire plus, mais on peut pas faire moins. Donc l'intérêt derrière ce pacte, c'est de se dire justement, on est tous sur des objectifs clairs qui sont lisibles avec le même dictionnaire, je dirais. Et c'est ça qui est très important, parce que chaque entreprise va faire un peu son initiative, va avoir ses propres critères, mais c'est pas traçable du coup d'une entreprise à l'autre, c'est pas compréhensible par le grand public. Donc ce qui est fort derrière ce Fashion Pact, c'est justement cette coalition d'entreprises sur des engagements clairs qui sont les mêmes pour tous.
Alors justement, il y a aussi une autre partie, on parlait de l'environnement. Il y a aussi la partie sociale qui est très importante, parce que souvent on dit que vous faites travailler les enfants.
Enfin, je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Je rigole parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette image malheureuse. C'est pas du tout le cas. Donc évidemment non, on n'autorise aucun, on n'accepte aucun travail des enfants, quels que soient les pays, quels que soient les endroits. Donc là-dessus on est très clair. Bien entendu, on a des chartes, on a des règles qu'on fait signer. Bien entendu, on surveille.
C'est
on
que travaille vos vêtements, avec des syndicats. Donc, par exemple, pour une usine qui est au Bangladesh ou en Turquie, Dans d'autres, vous avez quels ateliers, quel pays, dans quel pays vous produisez?
On produit pour les deux tiers en Asie, pour le tiers en Europe et on va dire Europe méditerranéenne. Donc ça va être la Turquie, ça va être la Bulgarie, ça va être c'est Portugal pour l'Europe. L'Espagne, pour l'Asie, ça va être effectivement le Cambodge, le Bangladesh, l'Inde, la Chine, voilà, toute une, selon aussi les compétences, les spécificités de chaque pays. Donc, on fait produire, voilà.
Donc là, à chaque fois, la même charte s'applique.
Ah oui. C'est obligatoire, c'est-à-dire que quel que soit le pays dans lequel on est, quelle que soit l'usine au sein de ce pays, on a un cahier des charges qui est très strict, qui doit être signé avant même de commencer la première relation commerciale. Et puis après, une fois que cette première relation commerciale est mise en place, il y a les personnes qui travaillent sur place,
qu'on a évoqué tout à l'heure,
qui sont là pour vérifier que justement ces critères sont respectés. Et puis il y a nous un système. En fait, on n'est pas propriétaire des usines, mais ce qui est intéressant, c'est que on a compris que on avait une relation commerciale, ce sont des partenaires pour nous les usines, et donc il faut que ça soit dans leur intérêt, comme dans notre intérêt, que de mieux travailler sur le plan environnemental, mieux travailler sur le plan social, parce que on n'imposera rien de façon coercitive. On a besoin que ça soit intéressant pour eux et qu'ils comprennent.
Parce que vous créez de l'emploi aussi sur place. Parce qu'on oublie ça, mais.
Ah oui, c'est sûr que, on parlait du Bangladesh. C'est la première industrie au Bangladesh. C'est l'industrie textile. Donc, ça fait travailler des centaines de milliers de personnes. Ça fait partie de l'essor économique du pays. Souvent, un pays, quand il se développe, la première industrie qui crée des emplois, c'est l'industrie textile. Donc, c'est à la fois une formidable force, c'est un formidable pouvoir de développement économique, mais avec ça vient effectivement une vraie responsabilité d'organisation et de structuration.
Tu parlais des syndicats, donc.
Oui, on travaille énormément avec les syndicats, à la fois des syndicats internationaux, parce que sur tous ces sujets-là, on va avoir deux leviers d'action. Le levier international, où là, on travaille effectivement avec les Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail, des syndicats internationaux comme Industriol, voilà. Et puis, au niveau local, via les bureaux de production aussi, des ONG locales, parce que forcément, parfois, vu d'ici, on se dit, oui, l'Asie, mais bon, entre le Cambodge et le Bangladesh, les lois sont pas les mêmes, les cultures sont pas les mêmes. Donc, du coup, les méthodes on a beau avoir le même cahier des charges technique, les mêmes exigences en termes d'environnemental et social, ça va pas passer pareil. Donc il y a un travail de pédagogie, il y a un travail sur place à faire, et c'est pas le même entre le Cambodge et le Bangladesh. C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes cultures. On s'est dit donc il y a vraiment quelque chose de à faire précisément sur chaque pays.
C'est, par exemple pour l'âge légal du travail.
Oui.
L'âge minimum légal.
Alors l'âge minimum légal, ça c'est quelque chose comme tu viens de dire qui est légal, c'est-à-dire que c'est pas nous qui le décrétons.
Voilà. C'est le pays.
Ça, c'est comme les salaires minimums.
Voilà.
Ce sont les pays qui décident les lois, comme en France. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un pouvoir de persuasion. C'est-à-dire que nous, quand je te dis qu'on travaille au niveau international, c'est-à-dire qu'on rencontre les gouvernements. On rencontre le gouvernement du Bangladesh. Quand on a signé l'accord, justement, pour mettre en place, on rencontre le gouvernement du Bangladesh. C'est avec eux qu'on discute pour, justement, essayer de mettre en place des conventions collectives industrielles dans chaque pays, donc pour que l'industrie de la mode soit représentée de façon conventionnelle.
Vous pouvez partir. Et dans ce cas-là, il y a un gros manque à gagner pour eux aussi.
Oui, voilà. C'est-à-dire que on joue l'idée de dire, en fait, l'idée du partenariat. De la même manière que c'est une idée de partenariat qu'on a au niveau de chaque usine, on joue cette idée de partenariat également avec le pays. C'est-à-dire que, on n'arrive pas avec nos gros sabots en disant on est très fort, on a besoin de tout le monde. Mais effectivement, on est un acteur important. Et donc, on est là pour discuter et pour faire passer les choses qui sont importantes pour nous.
Alors souvent, ce qu'on vous reproche aussi, c'est que les gens disent « Mais comment ça se fait qu'ils arrivent à fabriquer ?» Notamment des gens comme Liedel Cort, des gens quand même, qui ont des bonnes connaissances dans la mode. On vous dit « Mais comment ils peuvent fabriquer un t-shirt et le vendre à 4 euros ?» qu'est-ce que tu peux répondre à ça ?
H&M s'est positionné en disant « Nous, c'est la mode de qualité, à prix accessible et de façon responsable. » Ce sont les quatre piliers. Tout est organisé autour de ça et il n'y a pas de concession sur l'un ou sur l'autre. C'est-à-dire que c'est le global. C'est les quatre. Le prix accessible, d'abord d'où ça vient? Nous, H&M s'est toujours positionné comme une marque qui a démocratisé la mode. Démocratiser la mode, ça a voulu dire des choses différentes selon les époques. Au début, c'était rendre accessible la mode, parce que au début, c'était chez les couturiers et qu'il fallait faire son vêtement tout seul. Mmh. C'était pas accessible en magasin. Première étape. Et là, H&M a vraiment joué ce rôle quand on parle dans les années 50. Puis après, ça a été effectivement l'idée de dire c'est démocratiser la mode, c'est rendre accessible la mode qui était dans les défilés, toute cette créativité, tout ce côté magique. Bah, tout le monde peut y avoir aussi accès. Nous aussi, on a le droit à avoir
une jolie robe. Plaisir.
Voilà, exactement. Ce plaisir d'avoir ces belles choses nouvelles, cette créativité. Voilà. Aujourd'hui. Démocratiser la mode, c'est justement rendre une mode responsable, accessible, qu'elle soit justement pas le privilège en tous les cas de quelques personnes, et de se dire que aujourd'hui on peut effectivement avoir une jolie robe, un super sweat fait dans des bonnes conditions, mais à un prix accessible avec des belles matières, des matières qui sont durables, etc., à un prix accessible. Donc, qu'est-ce que ce prix accessible? Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce prix accessible? D'abord, ça fait longtemps qu'on travaille sur le secteur. Donc, on a parlé de relations commerciales. Ça fait longtemps qu'on est présent. On a internalisé aussi beaucoup de choses. Tout le design est internalisé chez nous.
Qu'est-ce que t'entends par internaliser?
C'est-à-dire que c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire qu'on passe pas par des intermédiaires. Et il y a beaucoup d'intermédiaires possibles il y a beaucoup d'intermédiaires dans l'industrie de la mode depuis la conception jusqu'au design, la production, X intermédiaires. Tous ces intermédiaires vont constituer aussi le prix d'un vêtement. Nous, en réduisant ces intermédiaires aussi, on arrive réduire les coûts, optimiser les coûts. Il y a le travail qu'on fait sur les matières, le travail qu'on fait sur le transport, on a évoqué. Donc, on arrive aussi à avoir une flexibilité intéressante, c'est-à-dire que on anticipe à l'avance beaucoup de collections, on va dire basiques, donc il fait que très longtemps à l'avance, on sait et c'est un jargon, on place les ordres, on va dire, sur des collections, donc longtemps en avance. Encore une fois, ça nous permet d'avoir des prix intéressants, des coûts intéressants, et puis d'être plus flexible et donc d'avoir des temps de réaction plus courts sur des collections capsules et des choses comme ça. Donc c'est toute cette expérience, notre taille et on va dire la limitation de tous les intermédiaires qui font qu'aujourd'hui on arrive à avoir cette mode accessible, de qualité et de façon.
Donc un t-shirt à 4,99€ n'a pas forcément été fait par des enfants comme on le dit dans l'imaginaire collectif.
Ah ouais, alors c'est pas forcément, c'est n'a pas été fait.
Il faut le dire.
Et puis il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est-à-dire qu'on parle des enfants, du travail des enfants, des salaires. Dans une usine, quand on travaille sur une usine, on travaille avec d'autres marques dans cette usine. Et la personne qui travaille derrière sa machine à coudre, elle va être payée le même prix, avec un même salaire, en fait, qu'elle fabrique, quel que soit le produit qu'elle fabrique. Donc, c'est pas, tu peux vendre un produit très, 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 très cher, la personne qui travaille dessus, elle l'aura pas plus de salaire. En revanche, la négociation qui est faite avec l'usine pour l'achat du produit qu'elle fait intègre le prix de son salaire, et c'est là-dessus que effectivement la négociation est gelée chez nous à la base, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre le prix. Quand on négocie un prix d'achat chez nous, on ne peut pas le descendre à la baisse, et on est en train de travailler collectivement avec d'autres marques, puisqu'on est tous ensemble dans cette même usine, pour que si le prix du salaire en fait de la personne qui est employée dans cette usine est augmenté, on accepte de payer toutes les marques le prix plus élevé.
Parce que tu es en train de nous dire, je décrypte tes mots, c'est-à-dire que au sein de l'usine il y a d'autres marques et des marques, disons, qui ne sont pas forcément de la fast fashion.
Ah non, bien sûr, bien sûr. Alors après, pareil, dans la composition de prix d'un marque, il y a de la matière, il y a d'autres composantes, mais oui, il y a d'autres marques qui sont vendues plus chères. Et qui sont fabriqués dans les mêmes usines.
Qui marchent peut-être aussi beaucoup plus.
Bon, c'est... Je te laisse le dire.
Voilà, je te laisse. Il y a un autre reproche aussi qui est souvent fait à la fast fashion, ce sont les invendus. Alors, on entend de tout sur les invendus. Énorme gaspillage, des vêtements qu'on ne peut pas recycler, des vêtements qu'on brûle au lieu des données. Qu'est-ce que vous faites chez H&M?
Alors ouais, merci, parce que c'est vraiment un vrai sujet, et il y a eu beaucoup d'amalgame qui a été fait, et c'est super dommageable, je dirais, pour une marque comme nous, d'autant plus qui est vraiment engagée depuis longtemps.
C'est-à-dire que vous, vous en prenez toujours plein la
tête.
Oui,
bon, après, c'est toujours, voilà, on a aussi cette... on est connu, donc forcément on attire l'attention. Mais donc oui, il y a un sujet, mais c'est pas tant celui des invendus. Alors je m'explique. Un invendu, c'est pas comme un produit alimentaire. Il y a pas de date de péremption en fait pour un vêtement. C'est-à-dire que effectivement, mon yaourt, au bout d'un moment, il va plus être bon. Mon vêtement, en vrai, il est bon longtemps. La preuve, c'est pour ça qu'on a tous dans nos garde-robes des vêtements qu'on a depuis 15 ans. Voilà. Donc il y a pas cette idée de ah, faut le jeter parce qu'il est plus valable. Il est valable notre vêtement. Donc nous, c'est vrai que l'avantage, on va dire, qu'on a, c'est que on a beaucoup de magasins, on a donc s'il va pas trouver preneur ce vêtement dans ce magasin, on va le faire aller vers un autre magasin, on va le faire aller même d'un marché à un autre. Donc après, ça a un impact, on va dire, en termes de transport, etc. Mais en tous les cas, le vêtement continue à exister. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que un vêtement, quand il est produit, quand on l'a commandé, quand on a fait travailler les gens dessus, il a un coût. On a intérêt à le vendre. On n'a aucun intérêt à le détruire.
Donc,
les
vêtements invendus ne restent pas dans des ateliers de stockage à attendre.
Non. Alors, en plus, nous, je veux dire, en fait, la différence peut-être avec le monde du luxe, c'est que nous, via les promotions, les soldes, etc., qu'on va faire, on va toujours réussir à trouver, à avoir quelqu'un qui est preneur de ces vêtements. En revanche, ce sur quoi on travaille, puisque je t'ai dit que cette de faire circuler ce vêtement, pour nous, a forcément aussi un coût et une conséquence. Donc, ce qu'on essaie d'améliorer, c'est la meilleure allocation au départ de ces vêtements pour qu'ils se trouvent directement preneurs dans le bon pays, dans le bon magasin, au bon endroit. Là, tout le monde y gagne. Et effectivement, là-dessus, on est en train d'améliorer pour notre système. Mais pour en revenir aux invendus, finalement, via les soldes et les promotions, on a peu d'invendus. Et d'ailleurs, quand on parle avec l'Alliance du Commerce, avec d'autres marques, les marques sont assez bien organisées là-dessus. C'est-à-dire que pareil, il y a pas de problème de date de péremption. Alors, ce qu'il faut différencier la notion d'invendu, c'est nous, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle les défectueux.
Oui,
donc les défectueux, c'est par exemple en magasin, il y a un bouton qui est tombé, il y a un trou qui s'est fait, donc on peut plus le vendre. Là, si on peut plus le vendre, mais qu'il est encore portable, c'est-à-dire qu'il est pas dangereux, on parlait tout à l'heure
finit pas la décharge.
Non. On est pour chaque marché de vente est organisé avec des associations. Donc pour la France, on est organisé avec une association qui s'appelle ASBL Les Petits Riens, qui est basée en Belgique parce que c'est proche de notre centre de qualité. Donc c'est là que tous les vêtements défectueux sont regroupés, puisqu'on ne peut plus les vendre. Mais comme certains sont encore portables, bien sûr, eh bien on les donne à cette association qui, elle, va les utiliser. C'est un peu un Emmaüs local, en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle va les revendre pour ce qui est encore portable, remettable, et puis alors les recycler. Et puis, il y a un troisième sujet, parce que tu as parlé d'incinération tout à l'heure. Il y a des cas qui sont heureusement très réduits, très, très minimes, très rares, mais où on est dans l'obligation de détruire certains vêtements. Parce qu'on a parlé, tu vois, tout à l'heure du fait qu'on est très strict sur la politique de produits chimiques qu'on utilise. Si un ne passe pas le test de qualité, on ne peut pas se permettre de mettre en danger avoir un produit qui n'est pas sain. Autre exemple aussi, en fait, on pour un choix justement écologique, on a décidé de faire transporter nos vêtements par bateau. Donc, par bateau versus l'avion, donc pour ses conséquences en termes d'émissions de CO2. Quand on fait shipper, comme on dit, par bateau, il y a des risques de moisissure. Et donc, il est apparu que des lots en contrôle qualité arrivaient avec, malheureusement, des moisissures. On ne peut pas ni vendre, ni donner. On ne peut pas donner ces vêtements-là.
C'est pas bon pour
des gens qui... c'est bon pour personne. Ça n'est pas bon pour les êtres humains.
Donc vous n'empoisonnez pas les gens non plus.
Donc non plus, voilà. Mais bon, c'est important de faire la différence parce qu'on se dit, pourquoi on ne donnerait pas plus? Tout ce qu'on peut donner, les défectueux, on le donne. Tout ce qu'on n'a pas vendu, finalement, on arrivera à le vendre via des promotions. Donc on le vend.
Alors, une petite parenthèse, tu m'as raconté une petite anecdote assez drôle quand on a préparé l'émission.
Oui.
Les manteaux et l'Australie. Tu me parlais des manteaux. Alors, des manteaux qui sont invendus, vous pouvez les envoyer, donc, en hiver, dans l'hémisphère nord, vous pouvez les envoyer dans l'hémisphère sud pour leur hiver à eux, c'est ça?
Ben, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a, parfois dans les, il y a des périodes qui font qu'on a au même moment des vêtements qui sortent partout dans le globe, et donc il y a des moments de saison forcément où un manteau en France et un manteau en Australie se portent pas au même moment. Donc oui, effectivement, on va pouvoir
C'est toujours intéressant de voir qu'il y a vraiment une logique en fait dans tout ce que vous faites.
Ah ben, on espère,
une logique,
oui, et bien
un suivi,
sûr.
Et une...
On est très. Faire mieux pour raconter qu'on fait mieux. C'est aussi un travail sur soi qui est ne serait-ce que pour la survie de l'entreprise. On est pour se dire demain, si on veut continuer à faire de la mode, si on veut continuer à faire plaisir, si on veut continuer à être créatif, si on continue à sourcer avec des superbes matières, si on veut le faire pour que des gens aient envie de travailler chez nous, avec des gens qui travaillent avec nous dans les usines, etc. On doit s'organiser comme ça, on n'a pas le choix.
Je voudrais que tu me parles de la transparence, parce que ça, on vous reproche souvent de ne pas être assez transparent. Or, c'est faux.
Oui, c'est faux. C'est effectivement, nous, on a un historique de transparence assez fort. C'est un peu dans notre ADN. On a des équipes qui sont dédiées justement à ce travail de reporting et de publication de qu'est-ce qui est fait chez nous. Je sais pas si tu connais l'initiative Who Made My Clothes de Fashion Revolution qui est sur l'idée de qu'est-ce qu'il y a derrière mon vêtement. Et chaque année, ils publient un Fashion Transparency Index. Cette année, on est encore dans le top 5 des marques qui sont
reportées. Il faut le rappeler.
Oui, c'est vrai, il faut le rappeler parce que effectivement, c'est beaucoup d'équipes qui sont dédiées à ce travail. Donc, il est de dire, d'abord, c'est nous, on doit savoir nous comment sont faits nos vêtements. Donc, on a ce travail interne qui est fait, mais on a ce travail de pédagogie à faire pour expliquer, montrer où est-ce qu'on en est et ce qu'il nous reste à faire aussi. C'est-à-dire que quand on est transparent, c'est accepter de se dire, on a du chemin encore à parcourir et comment est-ce qu'on va parcourir ce chemin.
Mais, pardon, il y a une transparence sur les étiquettes.
Alors, il y a effectivement la transparence qui est faite au niveau industriel, ça nous sert à nous. Puis maintenant, on a basculé dans une transparence qui est utile, qu'on veut utile pour le client. Voilà,
oui.
Pour le client. Parce que, effectivement, on sent bien que de plus en plus les gens attendent une information un peu plus claire sur notamment les matières et les pays de production et les conditions de fabrication. Donc, on a évoqué tout à l'heure 2013, on publiait la liste de nos fournisseurs, mais là cette année, il y a une avancée vraiment plus tournée client, qui est le fait que je suis en magasin, je scanne le produit que j'ai dans la main, la veste que j'ai dans la main.
Alors, on le scanne où?
J'ai mon application H&M.
Application H&M?
Ouais, application H&M. Alors après, c'est aussi accessible sur le site en ligne, mon e-shop. C'est-à-dire que je scroll, je flash sur ta veste. J'ai un onglet qui me montre que j'ai matière et fournisseur. C'est-à-dire j'ai une information sur comment cette veste, quelle est la composition en termes de matière et quel est le pays de production et le nom de l'usine qui l'a produite. Et ce qui est intéressant,
c'est extra,
là.
Ça, moi je le savais pas. Tu m'apprends quelque chose.
C'est nouveau parce que ce qui est bien, c'est que, enfin, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir quelque chose d'utile. Je m'explique. Savoir que mon vêtement, il est composé à 60% de Tencel et à 40% de polyester recyclé. Moi, personnellement, ça me fait une belle jambe. Au début, on n'en sait pas grand-chose. Savoir qu'en revanche, si c'est du Tencel, pourquoi le Tencel, c'est une alternative à la viscose, quel est l'enjeu, tu vois, environnemental associé à cette matière. De façon simple, on va pas rentrer dans le rapport développement durable plus complexe, etc. Mais de façon simple, pour la veste que je regarde, en magasin, sur mon application ou sur mon site internet, sur cette veste-là, je sais quelles sont les matières, je sais pourquoi c'est mieux ou en tous les cas quel est l'enjeu lié à cette matière.
C'est extra.
Et je sais où est-ce qu'elle a été produite. Donc l'idée de ça, c'est de me dire, si ça intéresse les gens, ça peut aider à faire des choix plus éclairés. Je sais que sur cette veste-là, voilà ce qu'il y a derrière.
Autre chose, le take care.
Oui, alors le take care, prendre soin. Prendre soin de ses vêtements, c'est un vrai sujet pour nous.
Parce qu'on vous reproche souvent d'être une mode jetable.
Oui, et on n'est pas une mode jetable. Au contraire, moi, j'ai gardé des choses des années. Je pense qu'on a tous dans notre vestiaire des pièces qu'on adore d'H&M depuis des années. Et en fait, C'est vrai que le tech care, ça a été une volonté de dire, tu sais, on l'a évoqué que depuis maintenant 2013, on peut rapporter les vêtements dont on a plus envie, dont on ne se sert plus dans les magasins H&M. Et là, on s'était dit, bah, il faut qu'on ait un cran en amont, c'est-à-dire qu'avant de se séparer de son vêtement, et quand on sait qu'en plus qu'il y a un énorme impact dans l'utilisation du vêtement, l'impact écologique d'un vêtement est beaucoup lié à son utilisation. Comment je le lave. Donc c'est clé. Or le problème c'est que c'est au moment où il a quitté nos magasins. Donc comment est-ce que on peut
prendre soin et prolonger
la vie du vêtement. Comment est-ce qu'on peut dire aux gens attention, un vêtement chez nous, il se conserve, il se garde.
Un t-shirt blanc ne se jette pas au bout.
Mais pas
de trois utilisations.
Pas du tout. Il s'entretient et il se customise, il s'entretient, il se chérit tout autant. Mmh. Donc tech care, c'était né de cette idée-là. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de d'abord des conseils qui sont disponibles en ligne, qui sont un peu tournés un peu de conseils de grand-mère, mais en mode glamour. Comment j'arrive à laver plus blanc?
Voilà, garder le blanc de ma chemise.
Exactement. Comment détacher une tache de rouge à lèvres? Comment customiser ma nouvelle chemise? Ma vieille chemise pour avoir envie de la réutiliser, comment réparer un bouton, comment
ah oui, jusque là quand même.
Ah oui des bons mais tu serais surprise, moi il y a plein de gens, mais moi je me dis mais attends, nous on a appris à coudre, mais est-ce que les gens aujourd'hui recoudent encore un bouton?
Généralement ils jettent, bah, voilà. Ils vont racheter un autre truc. C'est un peu dommage,
surtout pas. Et donc ces bons conseils là montrent que voilà, accompagnent tu vois nos clients en disant vous voulez mieux entretenir, vous voulez conserver, on vous aide, on vous dit comment. Donc ça c'est la partie conseil. Il y a la partie produit, c'est-à-dire qu'on a développé, et la France a été le premier pays à le proposer, une gamme de produits d'entretien, c'est-à-dire des lessives à basse température, des lessives pour les couleurs, des produits détachants, des sacs de lavage, des sacs de aussi de ce qu'on appelle les Goopy Friend Bags. Mmh. Tu sais, on vend ces fameux sacs qui retiennent les microplastiques quand on fait laver les matières en polyester. Il y a des patchs qui permettent du coup de combler un trou, tu vois, de coudre autour d'un coup. Donc toute une gamme de produits qui sont vendus chez nous, qui sont labellisés et qui sont labellisés par un label suédois parce qu'ils sont éco-conçus et pareil qui véhiculent et qui aident les personnes qui veulent mieux entretenir les vêtements.
Alors ces produits on peut les trouver en magasin, dans le flagship Lafayette, il y a un étage, hein,
oui.
C'est au dernier étage.
Au deuxième étage, et puis sur le site en ligne. Et la particularité du magasin Lafayette, c'est ce qu'on appelle le flagship,
c'est vaisseau que, amiral.
Tout à fait. Vaisseau amiral. On sent le vent dans les cheveux. Et ben on a deux services, donc c'est-à-dire des personnes qui sont dédiées, qui ont été formées, des machines qui font de la customisation, donc de la broderie d'un côté. Je veux avoir le nom de ma fille, le nom d'une copine pour un EVGF, brodé. J'ai aussi des petits graphismes, donc je customise mon vêtement.
Donc on achète le t-shirt à un étage, on monte pour mettre des initiales, un message.
Exactement. Donc ça, c'est la partie customisation. Oui. Et il y a la partie réparation gratuite. J'ai mon vêtement H&M,
c'est gratuit.
Je viens avec... Alors, si on doit placer un bouton ou placer un patch, le patch est payant, mais la main d'œuvre qui est autour de ça est gratuite.
Et pour les auditeurs qui sont en province ou même à l'étranger, donc à l'étranger, il faut se renseigner dans leur pays, mais pour les filles qui sont en province... Est-ce que certains H&M offrent le même service ou alors il faut aller sur le net?
Alors sur le net, il y aura tous les produits. Ouais, pour les lessives, il y a toutes les sacs de lavage, etc. sont disponibles en ligne. Donc on les fait livrer à domicile ou en click and collect pour les magasins aussi maintenant en province. Et puis le service de customisation et de réparation est disponible aujourd'hui que pour des raisons de place aussi et de training d'équipe. Pour l'instant, c'est effectivement au magasin d'H&M Lafayette.
Pour finir, est-ce que tu peux nous parler de la fondation H&M ?
Oui. Alors, en ce moment, il y a une actualité. C'est mon C'est mon grand
c'est
dada.
Ton dada, oui. La fondation... Le concours de la fondation. Mais avant de parler du concours, oui. Qu'est-ce que c'est cette fondation?
Alors la fondation H&M, c'est séparé du groupe H&M. Les fonds sont quand même une source qui est la famille de donc la famille personnelle de des fondateurs de H&M et également des ressources qui sont issues de service de collecte nous de vêtements. Donc vous savez que dans tous les magasins H&M, on peut rapporter des vêtements quelles que soient les marques donc et on va après nous les travailler avec une
Ah, on
une
peut autre... ramener d'autres on peut ramener
toutes les marques.
Des Monoprix, des oui. Zara,
oui. Oui. Toutes
Saint
les
Laurent,
marques.
Peu importe.
Des vêtements, des linges de maison, il faut que ça soit propre. Mais effectivement, tout on peut rapporter, ça depuis 2013 dans le monde, tous les magasins H&M vont rapporter tous les vêtements et du coup on s'en occupe, on leur donne une deuxième vie, on a un partenaire avec lequel on travaille et qui va revendre ces vêtements quand ils sont utilisables en marché de seconde main et réutiliser et recycler. Alors recycler, attention à ce qu'on dit parce que recycler, aujourd'hui il y a un grand enjeu dans l'industrie, c'est qu'on n'arrive pas à avoir transformé un vêtement en vêtement. Peut-être que tu voudras que
ça,
je précise un petit peu.
Ça, c'est important de le dire. Ouais.
Aujourd'hui, il y a un gros enjeu dans l'idée du recyclage du vêtement. Un papier, ça redevient un papier. Une bouteille en verre, ça redevient une bouteille en verre. Un vêtement, c'est pas un vêtement. On ne peut pas le transformer en vêtement. Ce qu'on arrive à faire au mieux aujourd'hui, c'est d'utiliser la fibre une fois que le vêtement est plus utilisé pour faire des matériaux d'isolation, par exemple. Donc, ça va sortir de l'industrie et ça va matériaux d'isolation, chiffons industriels, etc. Aujourd'hui, il y a une toute petite, une minuscule part de ces vêtements qui sont utilisables à nouveau. Pour nous comme matière première. Quand je dis pour nous, c'est pour toutes les marques. Hein. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a l'idée d'identifier. Ça devient à la complexité de la composition d'un vêtement. Ta veste tout à l'heure, tu m'en parlais. Elle est composée de plusieurs matières. Tu vas avoir du coton, du tencel, du polyester, par exemple. Il faut d'abord réussir à savoir qu'il y a ces trois matières-là. Après, il faut les séparer parce que tu vas recycler le coton d'un côté, tu vas recycler le polyester de l'autre. Tu vois. Et donc, dans cette technologie de recyclage, dans cette opération de recyclage, tu vas affaiblir la fibre. Donc en fait, tu vas obtenir une fibre qui va pas être suffisamment forte ou suffisamment longue pour être à nouveau tissée, pour être utilisable pour la confection d'un vêtement. Donc au mieux aujourd'hui, en fait, on arrive à avoir un peu, on va dire, de la poussière de fibre, d'où l'isolation. D'où l'importance de l'innovation pour pouvoir justement utiliser, développer des fibres recyclées. Aujourd'hui, on en investit énormément. On a des entreprises, on a même une structure financière qui investit directement dans des startups et même maintenant des entreprises qui développent ces technologies. Worn Again, une entreprise UK qui est extraordinaire, qui arrive à recycler et le coton et le polyester à partir de vêtements. Renewcell, une entreprise suédoise qui là travaille le recyclage de tout ce qu'on appelle fibres cellulosiques, c'est-à-dire fibres naturelles comme le coton ou le tencel, justement. Donc là, on arrive à petit à petit, on espère qu'en investissant, on arrive à avoir des solutions qui soient possibles pour à l'échelle industrielle. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une toute petite quantité de fibres. Aujourd'hui, on utilise des fibres recyclées, mais il y en a encore trop peu sur le marché. Aujourd'hui, on nous demande par exemple, mais pourquoi vous n'utilisez pas plus de coton recyclé? Ouais. On est déjà les premiers utilisateurs de coton recyclé dans le monde et ça représente pourtant que moins de 1%. Mmh. Coton organique, 15%. Coton... Donc, on a ce vrai enjeu qui est de dire il faut arriver à ce que la matière d'un vêtement puisse être une nouvelle matière pour un vêtement. Et dans cette idée de circularité... Mmh. Quand on s'est dit, en fait, si mon vêtement arrive à être ma matière première, je résous deux sujets. J'ai plus le problème des déchets, puisque du coup, ça revient à une matière première. Et je fais plus peser de pression sur les matières naturelles, en tous les cas d'extraction, on va dire, originelle, parce que j'ai utilisé une autre source de matière. Donc, c'est vraiment le recyclage d'une fibre en une autre fibre est vraiment un enjeu colossal et capital aujourd'hui. Et donc, c'est là que le Global
intervient
la fondation H&M, qui développe justement des projets pour travailler sur ces technologies de recyclage. Je te donne deux exemples. On a avec eux, on a un partenariat qui s'appelle Hong Kong Rita et qui a réussi à développer maintenant une usine qui peut recycler du coton et du polyester. Et c'est une usine qui est ouverte à tous. C'est-à-dire que tout ce qui est développé par la Fondation H&M a vocation à faire progresser l'industrie, toutes les marques. C'est-à-dire que ça n'est pas que pour nous. Et donc, maintenant, il existe cette usine. Alors, on essaie de travailler sur la plus grande disponibilité en termes de volume, mais il existe cette usine, donc maintenant, qui propose ce recyclage. Et il y a une fois par an, maintenant depuis 5 ans, ce concours qui s'appelle le Global Change Award. Et on dit que c'est un peu le prix Nobel de la mode responsable, qui récompense chaque année 5 projets autour de cette idée de justement d'une mode plus circulaire, donc des nouvelles fibres, donc des technologies de recyclage. Et en plus d'1 million d'euros à se partager entre ces 5 projets, pendant 1 an, les projets vont bénéficier d'un programme de coaching. Avec Accenture, avec le KTH, la Royal Institute de Stockholm, qui est, on va dire, qui donne qui est vraiment une grande école d'ingénieurs, et H&M. Et là-dessus, il y a un coaching entre New York, Shanghai, etc., pour développer le projet et qui puisse apporter un produit qui ait une réponse et qui soit utilisable pour l'industrie, parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir plein de bonnes idées, mais si les marques peuvent pas l'utiliser, ça rend pas les choses utiles. Et donc là, en ce moment, je fais un appel à projet, puisque cette année, les inscriptions sont ouvertes là maintenant.
Jusqu'à quand?
Jusqu'au 16 octobre. Déposez vos dossiers.
Qui peut candidater?
Alors, tous les projets qui vont dans un sens d'une mode plus circulaire. Il y a par exemple, parmi les premiers gagnants, il y a une marque de mode qui s'appelle Orange Fiber qui propose à partir de déchets de l'industrie du jus de fruits, donc citron, orange, ils ont récupéré donc les écorces, ils ont réussi à en faire une matière qui ressemble un petit peu à de la soie, qui peut être dégradable, et on les a utilisés. Alors ils ont gagné le Global Change Award, je crois, je sais plus si c'est la première ou la deuxième année. Ils n'ont pas travaillé avec nous en premier, ils ont d'abord développé une collection avec Ferragamo. Nous, il a fallu 4 ans pour pouvoir le faire, donc c'est pour montrer que voilà, tout ce qu'ils gagnent au niveau du Global Change Award, on le suit, mais c'est pas
forcément,
on n'a pas
vous,
forcément hein. de droit voilà dessus, enfin on n'a pas de droit dessus, et nous on est super fiers de les avoir intégrés dans la dernière Conscious Exclusive Collection de cette année, avec d'autres marques comme Pignatex, etc., qui sont des nouvelles fibres. Là, c'est la collection dans laquelle on s'amuse énormément, qui est la collection où il y a un peu notre lab de nouvelles matières, donc Pignatex, Econil, du nylon à partir de filets de pêche récupérés, Orange Fiber que j'ai évoqué. Donc là, on s'amuse dans cette collection, c'est un peu notre lab de nouvelles matières, avec des styles, tu vois, c'est ce que je porte là, je ne sais pas si...
Mais une très belle robe.
Une robe.
Et qu'est-ce qu'elle a, cette robe, alors?
Cette robe, c'est une robe Conscious Exclusive d'il y a 2 ans, je crois, et qui est en soie biologique et en tencel. Et voilà, je me sens bien quand je suis dedans. Donc c'est la collection dans laquelle on s'amuse effectivement particulièrement au niveau des matières pour montrer que cette idée un peu rabat-joise de alors mode responsable, voilà. C'est bonnet péruvien, c'est en chanvre et ça va me gratter.
Exactement. Souvent c'est ça aussi. Non. La mode responsable, on imagine une mode austère ou très classique.
Finalement, non, pas du tout. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses extraordinaires. Nous, après, on a vraiment des créas qui sont très inventives. Donc c'est chouette d'arriver à mixer un style, des matières justement éco-responsables, et puis agréable à porter. Il faut que ça soit d'abord faut qu'on ait envie de les porter. Il faut que ça soit doux, il faut que ça soit fluide, et puis il faut que ça soit beau. Il faut qu'on s'amuse. C'est le reste de la mode.
La mode,
ça doit être léger, ça doit faire rêver. Mais il faut rien sacrifier sur cet hôtel-là. Il faut que ça reste un plaisir, faut qu'on puisse célébrer la mode à travers les vêtements. À nous de montrer qu'on peut le faire de façon responsable.
Donc on peut continuer à consommer de la mode d'une manière responsable, tout en se faisant plaisir.
Bien sûr.
Merci Julie Marlène.
Merci à toi. Elle.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.